Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Elle en Mayenne. Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayonnaise. Pour ce nouvel épisode, je vous invite à rejoindre ma discussion avec non pas une, mais deux femmes mayonnaises. Il s'agit de Morgane et Alexia. Morgane est coach de vie et Alexia, infirmière puéricultrice et monitrice de portage. Ensemble, nous avons parlé de l'association Super Maman France dont elles font partie. Une association destinée à soutenir les mamans en péri et postpartum. Nous avons discuté de leur métier, de la maternité et de comment cette association aide les parents dans cette étape de vie. Je suis ravie de partager le travail d'associations comme celle-ci. Je les remercie toutes les deux pour leur engagement et d'avoir partagé ce moment avec moi, mais aussi avec vous. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Alexia, bonjour Morgane. Bienvenue au micro d'Elle en Mayenne. Je suis très heureuse du coup de partager cet épisode avec vous. C'est la première fois, comme je disais, que j'enregistre un épisode avec deux personnes. Et pour débuter les épisodes, souvent je demande aux personnes de se présenter en quelques mots. Donc forcément la présentation ne va pas être commune à vous deux. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut commencer par...
Si tu veux. Merci à toi déjà de nous recevoir pour le podcast. Donc moi je m'appelle Alexia, j'ai 26 ans, donc je suis infirmière puéricultrice, je suis diplômée depuis 2020, voilà, c'était un métier de cœur, c'était la voie que je devais suivre. Donc j'exerce en PMI depuis 2020 également, en fait une fois que j'ai été diplômée je suis tout de suite rentrée en PMI, donc protection maternelle infantile, sur le département de la Mayenne.
Ok, très bien.
Voilà. Par la suite, je me suis formée au portage physiologique, donc je suis devenue monitrice de portage et je peux proposer des ateliers portage aux parents que j'accompagne, soit dans le cadre de mon exercice professionnel ou à côté avec l'association du CLEP à Laval.
D'accord, c'est ce que j'allais te demander, si c'est des choses que tu proposes effectivement par le biais de la PMI, ou... donc les gens peuvent spontanément te contacter s'ils sont intéressés, on va dire, juste par cette partie-là.
Juste par le portage, oui. Ça peut être sur mon temps perso, en fait, ouais, le samedi au club, du coup, à Laval. Et en PMI, bah, ça va être, si l'occasion se présente, c'est vrai que si les parents ont une écharpe avec eux ou un outil de portage à utiliser et qu'ils ne savent pas trop comment l'utiliser, bah, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais pouvoir proposer aux parents et je trouve ça chouette pour eux.
Très bien.
Et donc du coup, depuis j'ai aussi commencé une nouvelle formation, donc en novembre 2022, une formation qui va me permettre d'acquérir des connaissances pour devenir en fait consultante en lactation IBCLC, avec une certification prévue normalement en 2024.
D'accord, et là pareil, ce sera une activité que tu pourras...
C'est
une compétence que tu pourras intégrer à ton métier d'infirmière, ou ce sera aussi quelque chose
c'est quelque chose que j'utilise au quotidien dans les accompagnements que je peux proposer en PMI, puisque l'allaitement maternel, c'est quelque chose qui est présent, ça fait partie du quotidien, voilà, c'est ça. Et sinon, tout récemment, donc du coup, j'ai intégré l'association Super Maman France, grâce à Morgane qui m'en a parlé tout début d'année.
Okay.
Voilà, et j'ai été sollicitée par la présidente, donc Clémentine, j'ai plus son nom, mais Clémentine, pour devenir maman contact, puisqu'il n'y en avait plus en Mayenne.
D'accord.
Donc, j'ai tout de suite envoyé un petit message à Morgane pour lui demander si ça l'intéressait, en fait.
De se joindre à toi dans cette association-là.
Voilà.
Association.
On va y arriver. Sachant que je suis aussi maman d'une petite fille.
Ça fait partie de ta vie,
hein. Voilà, c'est ça, d'une petite fille qui a 17 mois. C'est vrai que ça me prend déjà beaucoup de temps. Donc, pour avoir un équilibre, avoir plus d'équilibre, je pense que j'ai trouvé ça judicieux d'être à deux sur ce type de mission-là. Et puis, pour continuer de prendre du plaisir aussi à développer cette association-là en Mayenne.
Très bien, oui, parce que c'est vrai qu'entre ton travail d'infirmière, plus donc les activités que tu peux proposer en dehors de ton temps de travail, plus la vie de famille, c'est vrai que... On s'y retrouve quand même.
J'ai pas le temps de forcément m'ennuyer, oui. Mais c'est riche. Oui. C'est des choix que j'ai faits et c'est des choix qui... Ce sont des choses qui me font vibrer, en fait, qui m'animent. Donc, ça ne devient pas une contrainte pour moi. Au contraire, ça m'enrichit et ça me... Oui, ça m'anime, en fait.
Ouais, ça te conforte aussi, peut-être, dans...
Dans mes choix, oui. Dans mes choix professionnels et dans l'épanouissement que je peux y trouver au travail. Voilà, et auprès des parents.
Bon, on reviendra tout à l'heure, je pense, plus en détail sur l'association. J'ai réussi à le dire. Et peut-être que Morgane, est-ce que tu veux te présenter un petit peu à ton tour ?
Oui, ouais. Je veux bien, merci. Merci de nous accueillir toutes les deux sur le podcast Plan Mayenne.
On est chez Alexia quand même, donc je vous accueille à moitié.
T'es venue avec ton micro et tout ça. Tu nous laisses la parole en tout cas. Et ouais, c'est quelque chose d'important pour moi, mais bon. Je comprendrai plus tard, laisser la parole, c'est un truc important. Du coup, je suis Morgane Dufour, je peux le dire. Et je ne suis pas mayonnaise de souche, mais adoptée. Et je crois que j'ai autant adopté la Mayenne qu'elle m'a adoptée. Donc, bah, heureuse d'être sur elle en Mayenne, parce qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais cru en arriver là.
Tu es originaire d'où, si c'est pas...
Alors, d'un département qui ressemble un peu à la Mayenne dans la façon dont il est composé, structuré géographiquement, mais c'est la Picardie. D'accord. Et du coup, un département qui ressemble à la Mayenne, l'Aisne, très agricole, avec très peu de grandes villes, voilà, très nature. Donc finalement, je me suis juste décalée un petit peu au sud-ouest. Voilà. Et donc dans la vie, je suis aussi maman de deux petites filles qui ont 10 et 6, plus si petites que ça. Et je suis coach de vie, j'accompagne les femmes à traverser les étapes importantes de leur vie. Je suis aussi facilitatrice d'espaces sacrés, donc je facilite des cercles de femmes. Je suis praticienne en soins rituels Rebozo avec... une femme mayonnaise, Cécile Manchon, peut-être qu'elle viendra un jour sur le podcast, on ne sait pas.
Je crois que c'est fait.
Voilà, ça c'est fait.
Tu as fait le lien maintenant.
Ok, j'ai fait le lien. Voilà, et du coup, ben, pourquoi je disais tout à l'heure, merci de nous laisser la parole et pourquoi c'est important pour moi, parce que mon métier consiste principalement à ouvrir des espaces tant où les femmes peuvent... déposer leurs paroles librement, dire ce qu'elles n'osent pas forcément dire ou ce qu'elles ne se permettent pas de dire ailleurs pour enlever les petites couches d'oignons là, qui nous empêchent d'être nous-mêmes et finalement arriver à l'essence de qui on est et de vivre une vie la plus alignée possible. Donc voilà.
Très bien. Deux expériences de vie très, très riches en tout cas. Morgane, du coup, ta présentation aussi pose quelques petites questions. Est-ce que c'est un métier que tu exerces depuis longtemps ?
Alors, je suis coach de vie certifiée depuis mars 2022, je crois que c'est ça. Je fais ce métier depuis avril 2020. Moi, je suis du genre, j'expérimente, je teste, je valide si ça me plaît, et puis ensuite, j'attaque les choses sérieuses et je me forme. Je fonctionne à peu près comme ça dans tout dans ma vie. Je crash, test and learn, en gros. Et avant ça, j'étais éducatrice Montessori pour les 0-3 ans.
D'accord.
Donc, c'est vraiment avec ce deuxième métier, parce que j'en ai encore eu un avant, que j'ai commencé à mettre les doigts dans le cambouis de comment un être humain se développe et qu'est-ce qui fait que certaines conditions vont être favorables pour son épanouissement et d'autres pas du tout. Donc, j'ai découvert ça avec les tout-petits. Et puis, avant ça, j'étais costumière pour le spectacle vivant.
D'accord. Donc là, du coup, complètement autre chose, parce que c'est vrai que être dans l'éducatrice en Montessori et peut-être coach, il y a quand même quelques liens où tu agis sur le bien-être, que ce soit des enfants ou des femmes. Mais là, du coup, c'est complètement... C'est un métier créatif...
Complètement. Un métier créatif pour lequel j'ai fait toutes mes études et qui finalement, une fois que je suis devenue maman pour la première fois, n'avait plus beaucoup de sens. Donc en gros, à chaque fois que j'ai eu une fille, bah, j'ai un peu tout remis en question et fait des virages à 360 degrés.
Okay. Mais c'est ça, que je pense que la maternité aussi nous fait ça ressortir des choses et c'est peut-être... Tu dois en voir beaucoup des femmes, du coup, tu disais tout à l'heure, oui. Un certain passage de vie où il y a un grand chamboulement.
Complètement. J'accompagne la dépression postpartum, le burn-out, les grosses questions existentielles qu'on se pose quand on devient maman et que tout le monde qu'on avait construit jusqu'ici est remis en question. Nos valeurs changent, nos besoins changent, nos points de vue changent. Et ben, ça peut se faire tout en douceur. Comme être un peu comme un grand ouragan, et moi, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et voilà, et je pense que c'est aussi pour ça que l'association Super Maman France me touchait, me parlait, et que ça me semblait être un petit engrenage d'un tout qui peut faire que ça peut être beaucoup plus doux de devenir maman aujourd'hui dans ce monde moderne, je mets des guillemets. Voilà.
Et toi, Alexia, le domaine aussi de la maternité et de pouvoir effectivement aider les bébés et les parents, c'était quelque chose qui te tenait à cœur aussi ?
Moi, je pense que c'était une vocation. Oui, je pense que c'était une vocation. Et après, donc j'étais d'abord professionnelle et très rapidement après, donc, je suis tombée enceinte de ma fille Alban. Et donc là, j'ai fait l'expérience moi-même de la maternité. Et c'est là aussi que j'ai pu traverser et vivre tous ces bouleversements qu'une femme enceinte et qu'une femme qui accouche peut vivre. Donc ça m'a fait voir mon médecin, mon exercice professionnel peut-être aussi d'une autre façon. Je pense que j'ai une posture peut-être aussi différente auprès des parents. Et ça m'a fait surtout comprendre aussi que les femmes qui viennent d'enfanter, d'avoir un enfant, ont réellement besoin d'être soutenues, entourées et relayées. En fait, c'est vraiment en le vivant que je l'ai compris. Et c'est ça qui m'a donné envie de pousser, de développer quelque chose sur cette thématique, sur ce relais-là, en fait.
Oui, c'est ça qui t'a donné envie d'approfondir effectivement ton métier et d'avoir plusieurs compétences en plus de la formation peut-être de base par rapport au portage, notamment.
La formation par rapport au portage, je l'avais toujours eu en tête, en fait. Ouais, c'était quelque chose pour moi qu'il allait falloir que...
C'était complémentaire.
Ouais, voilà, c'est ça. Surtout qu'on est dans un monde, comme a dit Morgane, entre guillemets, moderne. Donc, un monde où... Et un monde où aussi on est un peu seul hein, quand on vient d'accoucher. Donc, pour moi, le portage, c'est une des clés, un des outils qu'on doit avoir dans notre poche après la naissance d'un enfant, de façon à pouvoir répondre aux besoins de l'enfant, puisqu'il a quand même vécu pendant 9 mois dans le ventre de sa maman. Donc, autant dire que les premiers mois de vie, il va avoir besoin de trouver ces repères-là pour se rassurer et pour voir se sentir en sécurité, en confiance et se développer. Et puis, c'est surtout... ça va être aussi un outil pour les mamans, par exemple, qui se retrouvent seules une fois que le papa a repris son travail après le fameux mois de congé paternité. C'est un outil pour leur permettre de continuer malgré tout à assurer les tâches du quotidien.
À manger.
C'est ça, à manger. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Ouais. À faire des tâches du quotidien. Hein, même si dans l'idée, moi, dans mon idéal, j'aimerais que tranquillement les nouvelles mamans puissent ralentir aussi et prendre soin d'elles. Il n'empêche qu'il y a des moments où il faut assurer parce qu'on est seul et qu'on a quand même des injonctions au quotidien à respecter. Enfin, donc voilà, le portage pour moi c'était vraiment quelque chose de naturel et qui répondait à un grand besoin que ce soit et pour les bébés et pour les parents. Mmh. Voilà. Et qui déculpabilise aussi un peu les parents. Voilà.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que ça, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à ma vie personnelle. Pour mon premier enfant, je ne connaissais pas du tout le portage. Et c'était un bébé forcément qui voulait être collé que à sa maman, mais ça je pense que c'est normal. Et je déprimais, j'ai fait un trou dans mon canapé en mode c'est pas vrai. Et quand j'ai eu ma deuxième, je me suis dit je peux pas refaire ce même trou dans le canapé parce que j'ai un plus grand à m'occuper. Et vraiment, le portage ça a sauvé mon postpartum sur cette deuxième, sur ma petite fille. Donc vraiment, effectivement. Et par rapport à... Est-ce que tu ressens encore aujourd'hui une réticence peut-être des parents ou dans l'entourage des parents par rapport au portage? Enfin, là encore, je vais parler pour mon expérience. Je sais que j'ai eu pas mal de réflexions quand j'ai porté ma deuxième avec... voilà, des petites réflexions. On se dit oui, mais c'est mon choix. Et tu vois, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner aux parents qui soit sont à l'aise avec le portage mais qui ont du mal à l'expliquer à l'entourage, ou au contraire qui ont un peu de réticence avec ça?
Ben, j'ai envie de te dire que ça fait un peu partie de mon quotidien en PMI, puisque ben, les parents peuvent être très rapidement déroutés hein, par les pleurs du nouveau-né avec différents sons de cloche. On a beaucoup de discours avec... bah, des discours des professionnels de santé, des discours de l'entourage, ses propres idées à soi aussi en tant que parent. Et après la naissance, c'est vrai que ça peut être un peu la tempête dans le cerveau des parents, je pense, qui peuvent se perdre dans l'ensemble des discours. Donc moi, alors tu me parles de conseils, j'aime pas trop parler de conseils, mais moi je vais surtout rappeler aux parents bah, qu'ils peuvent se faire confiance en fait. Ils ont réussi à créer ce petit bébé, la maman elle a réussi à le porter pendant 9 mois, à le mettre au monde aussi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire je pense. Donc en fait elle a déjà toutes les clés en elle pour tranquillement apprendre à décoder ce bébé, à répondre à ses besoins, à faire confiance aussi à ce bébé. Parce qu'il est là pour nous guider, pour nous dire des choses. Et je leur dis souvent, mais écoutez ce que vous ressentez au fond des tripes. Enfin, c'est quelque chose de viscéral hein, quand on donne naissance à un enfant. Et je vois, il y a des mamans encore qui me disent, bah, soit j'ai une maman il n'y a pas longtemps qui me disait, je m'oblige à mettre mon bébé un peu dans les bras des autres pour qu'ils deviennent sociables, pour pas qu'ils prennent de mauvaises habitudes à être seulement dans mes bras. Ou encore, j'essaye de le laisser pleurer pour qu'il s'habitue, pour qu'il ne devienne pas, qu'il devienne pas dépendant de moi. Mais en fait, c'est un être dépendant. Donc, j'essaye de resituer les choses dans leur contexte avec les parents. Et je leur explique en fait que naturellement, le bébé, pendant 9 mois, il a vécu dans un environnement, donc in utero, il a vécu dans un environnement où il était bercé, où il entendait les bruits du cœur de sa maman en continu. Il était à 37 degrés, donc il était au chaud, en continu, dans l'obscurité, dans une position fœtale regroupée. Donc en fait, à la naissance, c'est sûr qu'être posé dans un couffin bien tranquillement à côté et faire dodo, bah, c'est pas forcément quelque chose qui va être capable de faire, et c'est surtout, ça va pas forcément comment dire, répondre à ses besoins dans l'immédiat. Donc je dis pas de prendre H24 son bébé, parce que c'est pas le but, et que le parent à ce moment-là il risque de s'épuiser aussi, mais de ne pas avoir peur de le prendre pour répondre à ses besoins et de s'écouter, ouais, de se faire confiance et de mettre un peu, je dis souvent aux parents, vous pouvez vous mettre des œillères un peu par rapport au discours de l'entourage, parce que en fait ils sont juste maladroits. Ils veulent bien faire avec ce qu'on a pu leur inculquer quand ils étaient enfants, adolescents et même parents, parce qu'il y a quand même eu une génération où fallait surtout pas trop porter les enfants, surtout pas dormir dans la même chambre, essayer de les laisser pleurer un peu pour qu'ils prennent de l'autonomie, qu'ils prennent, qu'ils fassent leurs poumons. Hein. C'était une phrase qu'on pouvait dire. Donc je leur dis, mettez-vous des œillères par rapport à ça, parce qu'ils sont juste maladroits.
Il y a eu un tel changement, je pense, dans la manière dont on aborde la maternité et l'éducation en une génération, qu'en fait on se confronte nous aujourd'hui à ça, et des fois ça peut
clasher.
Être difficile.
C'est ça.
Ouais, tout à fait.
Et encore, alors avant-hier, j'étais en visite à domicile chez des parents et les grands-parents étaient présents. Ils étaient en train de déjeuner sur une terrasse. Et en fait, eh bien, il y avait la grand-mère qui arrivait aussi avec ses questionnements en me demandant si ça allait pas devenir un enfant capricieux à force de le prendre et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est pas de rentrer en confrontation en disant... avec moi j'ai la bonne idée, toi ce que tu as fait c'est pas bien, enfin c'est surtout d'essayer de faire comprendre avec les études qu'il y a maintenant d'arriver sur les neurosciences, sur le développement du cerveau de l'enfant, le pourquoi du comment, en fait pourquoi on va agir de telle ou telle façon et comment ça va pouvoir répondre aux besoins de l'enfant. Et en ayant cette approche là ben, je trouve que les
c'est peut-être accueilli par l'entourage.
Voilà. Mais moi, tu vois, j'ai beau être péricultrice, quand j'ai eu ma petite fille Alban à la naissance, alors moi j'étais convaincue du portage, j'étais convaincue de l'allaitement maternel, donc j'ai pu mettre tout ça en place assez facilement, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, mais j'étais quand même dans une période de vulnérabilité, et par exemple les repas de famille ou les repas où j'allais être confrontée au regard des autres, de mes proches, même si je savais que ce que je faisais c'était bien pour mon bébé, même si j'en étais convaincue, et ben j'avais une part de stress en fait quand même qui était là, en me disant j'espère que déjà elle va pas trop pleurer pendant le repas, enfin et puis j'avais peur de ces questions un peu déroutantes de la part de mes proches.
Alors que tu as les connaissances et tu peux justifier avec les bons mots pour des mamans qui sont un peu dans le doute sur leur manière de faire et qu'ils ne sont pas sûrs de soi, c'est des choses qui peuvent être des fois déstabilisantes. Et notre confiance en soi, elle est un peu...
elle est un peu mise à rude épreuve, je pense, quand on vient de donner naissance.
Tout à fait. Et toi, du coup, Morgane, dans ton activité, dans ce que tu peux proposer, tu parlais tout à l'heure que tu facilites donc des espaces de parole. Est-ce que c'est des choses que tu ressens aussi aujourd'hui? Est-ce que dans ton activité, tu es confrontée à beaucoup de femmes, je suppose, qui viennent de vivre la maternité?
Alors oui, je l'ai été pas mal. Moi maintenant, parce que j'ai ouvert mes accompagnements à toutes les femmes et à tous les âges. Donc aujourd'hui, j'ai des jeunes filles qui vivent du harcèlement scolaire jusqu'aux personnes à la retraite qui veulent continuer de donner un sens à leur vie et de traverser ce qu'elles ont besoin de traverser. Mais au démarrage de mon activité, j'étais essentiellement centrée autour de l'accompagnement des mères. Et j'avais notamment pas mal de mamans, pas forcément très jeunes mamans, comme Alexia vient d'en parler, mais des mamans qui avaient des enfants en bas âge, donc on va dire entre 1 an et 6 ans.
D'accord.
Et qui avaient très certainement vécu un postpartum pas facile, mais voilà. Quand même, on se dit c'est normal, on passe outre. Mmh. Et comme l'a bien expliqué Alexia avec ce qu'elle préconise ou ce qu'elle explique aux parents qu'elle reçoit, c'est de trouver, d'arriver à s'écouter et à se faire confiance, le mot d'ordre. Et ça, si on ne l'a pas reçu au départ, ben finalement, on devient parent, on grandit parent avec ce manque-là, cette pièce du puzzle qui manque. Et du coup, j'avais beaucoup de mamans qui... malgré que leurs enfants aient grandi, se retrouvaient toujours à ne pas savoir si elles faisaient la bonne chose dans l'éducation. Est-ce que si je lui dis trop non, ça va le frustrer, ça va lui faire des traumas quand il sera grand? Est-ce que, mais si je laisse trop faire, moi je me sens débordée et puis je sais plus comment faire? Et finalement, le problème c'était déplacé ailleurs. Parce que, au départ, oui, si on ne croise pas Alexia ou des personnes comme elle, aller à la PMI, ce n'est pas une démarche que tout le monde fait. On ne croise pas forcément ces personnes ressources-là sur notre passage. Et la maternité, quoi qu'on en dise, c'est un moment de vulnérabilité, c'est un moment où on traverse une matrescence, où il y a plein de choses qui se passent. Et c'est un endroit de fragilité. Et si on l'a... consolide pas, si on vient pas mobiliser les ressources qu'on a autour de nous et en nous à ce moment-là, je pense que on grandit par an avec quelque chose qui est un peu bancal.
Avec un manque ou...
Voilà, et j'ai, moi, malheureusement, pas mal de mamans, quand j'étais vraiment dans ce cœur-là de mon métier, qui étaient en burn-out ou qui frôlaient ça et qui ne savaient plus par où s'en sortir parce qu'elles voulaient tellement bien faire. Parce qu'il y a une réelle pression à être une bonne maman.
Trop grande pression, tu penses ?
Oui, peut-être. Oui, je pense, mais aussi parce qu'on a énormément d'informations, on sait énormément de choses, les neurosciences nous ont amené plein de choses, les réseaux sociaux nous scandent mille et un trucs qu'il faudrait qu'on fasse. Notre entourage en rajoute une couche, le médecin a sa version, voilà ce qu'on disait. Mmh. Et du coup, ça c'est à la naissance, mais c'est tout au long de la parentalité finalement. Le passage à l'école, c'est tout un truc, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il soit propre, il faut... Enfin, des « il faut », il y en a à tartiner toutes...
Des injonctions, oui.
Tous les matins, vos tartines du petit-déj, du « il faut », du « il faut », des... Voilà. Et on ne sait plus ce qu'on veut, ce qu'on a envie, ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est un déséquilibre, en tout cas, à recréer, enfin, un équilibre plutôt à recréer. Ok, il y a des « il faut », il y a ce qu'en disent les gens, ce qu'il faudrait faire, qui n'est qu'en fait qu'un idéal, et absolument pas quelque chose à atteindre, à créer pour soi. Je pense notamment à la parentalité bienveillante. Ceci est un concept. Ce n'est pas une réalité à vouloir créer dans sa vie. On peut tendre vers, on peut se dire « ah, ça me parle, et je sens que c'est bon pour moi et que c'est bon pour mon enfant, donc je vais peut-être l'appliquer ». Mais tout le reste, c'est trop pour moi, c'est too much, je sens que ça marche pas dans l'équation, et c'est pas au service de mon bien-être dans ma famille, et je vais pas prendre ce truc-là. Garder son esprit critique, c'est un truc hyper hyper important, mais c'est aussi un moment où on est hyper vulnérable, donc c'est pas facile de retrouver ça, en fait, je trouve. Parce qu'on est dans une vie émotionnelle... intense, parce que notre cerveau même se modifie, donc on n'a pas les mêmes connexions neuronales qu'avant, donc nous-mêmes on n'est plus la même personne, donc parfois on est même surprise de nos réactions, et moi je me disais, ma dernière a 6 ans, et je crois que ça fait à peine un an que je me dis, moi je suis plus une jeune maman, je sens que c'est bon, cette période elle est passée, donc ça veut dire que pendant les 5 ans de ma cadette, je me suis sentie dans cette espèce de vulnérabilité émotionnelle, de « mais qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et alors à des degrés différents. Hein. Mais du coup, je pense que c'est non seulement les jeunes parents qu'il faut accompagner, et c'est là qu'il faut en quelque sorte mettre le paquet, parce que c'est le moment de vulnérabilité, et c'est là où, quelque part, il y a des bases qui se construisent, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour accompagner l'enfant et le parent qu'on va devenir. Mmh. Et évidemment, si on a pu se reposer, si on a pu être dans un climat le plus serein possible quand on a été jeune parent, on prend une confiance en nous-mêmes, en notre enfant, qui va pouvoir perdurer et grandir avec tous les challenges que la parentalité va amener, l'enfant qui grandit. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est des challenges. Mais si à la base, on nous a dit « oui, t'es capable, tu peux faire, tu sais, ton enfant sait, fais-lui confiance, tout est en toi », plutôt que « fais ci, fais ça, non, pas sur le dos, mais sur le ventre, je sais pas quoi », on se construit en tant que parent d'une façon tout à fait différente.
Oui, et c'est vrai qu'en fait, avec toutes ces injonctions, en tant que maman, on se pose même pas la question en fait, de quelle maman je veux être, de la maternité effectivement qu'on a en soi. On a tendance à tout écouter et se dire « ah oui, je suis peut-être d'accord avec ça », et au final, se retrouver soi et savoir ce que l'on veut transmettre, c'est des choses des fois qui ne sont pas forcément évidentes. Peut-être, quand tu disais aussi que tu facilites la parole et l'écoute, c'est des choses, je pense, qui doivent être importantes à mettre en place.
En fait, quand les femmes viennent me voir, et parfois les papas, les courageux, ce qu'elles s'offrent, c'est un temps où elles font pause, où il y a un espace bienveillant, non jugeant, et où elles vont pouvoir se dire vraiment, moi en fait, comme tu disais, je sais même pas quelle maman j'ai envie d'être, de toute façon on m'assène tellement de trucs que je sais plus, puis de toute façon j'ai pas le temps de me poser la question, on ne me l'a jamais posée, donc a priori c'est même pas une question, et juste je dois faire, je dois répondre aux exigences, je dois cocher les cases, mais on s'en fout de qui je veux être.
Et peut-être qu'on s'oublie aussi par rapport à notre enfant.
Complètement. Et ça, c'est naturel au départ. C'est naturel au départ, c'est aussi la survie de l'espèce qui est en jeu. Et donc, il y a vraiment un truc naturel qui se passe au moment de la naissance et les premiers temps où le bébé, tout notre focus va être vers lui et où nous, on est un peu relégués au second degré dans notre propre conception des choses. D'où l'idée du relais. Parce que du coup, les autres, eux, ils peuvent prendre soin de nous. Sinon, on s'oublie un petit peu. Mais ça, c'est un truc qui doit s'estomper avec le temps. Et parfois, moi, j'accueille des mamans qui ont des enfants, comme je disais, de 4, 5, 6 ans et qui en sont toujours à se dire « Moi, c'est après. Moi, c'est plus tard. Il a besoin de moi. » Comme si c'était une question de vie ou de mort, qu'il ait son biscuit. Voilà. Et qui sont dans une culpabilité énorme si elles n'ont pas fait comme elles avaient prévu, comme la maman modèle aurait dû faire. Et pour moi, là, il y a un biais. Non. Cet enfant, il n'est pas en danger de mort. Tout va bien. Il peut faire sa life. Il peut oublier un biscuit au goûter. C'est pas grave. On ne va pas lui créer de trauma. Mais j'ai vraiment des mamans qui arrivent avec cette peur viscérale de me dire je fais quelque chose de mal. Et en soi, non, tout va bien. Il y a beaucoup de déculpabilisation à faire dans mon travail. Et voilà. Et quand c'est pas fait autour de la naissance, ça se fait après. Hein, ouais. Y a matière.
Oui. Vous êtes tellement riche pour vous deux, vos métiers et vos échanges. Vous arrivez à gérer tout ça?
J'adore.
Moi, je dis que c'est souvent aussi nourrissant pour moi que je l'espère pour les personnes que j'accompagne. Mais ça me donne de l'énergie, en fait. Oui. C'est un peu magique d'avoir quelqu'un qui rentre dans la pièce en séance et qui arrive avec tout son marasme émotionnel, ses challenges du quotidien et qui repart avec de l'énergie, des déclics, une prise de conscience qui va faire qu'elle va pouvoir agir différemment dans son quotidien. Et transformer alors sa vie à elle, mais forcément si sa vie à elle est changée, ça va avoir un impact aussi sur sa famille, ses enfants, son conjoint, sa vie professionnelle. Et ce qu'on oublie souvent, ce que les mamans, comme tu disais, on se fait toujours passer en second voire en dernier, c'est que si elle s'occupe d'elle, il y a une espèce de rayonnement qui va se créer autour d'elle. Et finalement, c'est du positif pour tout le monde. S'occuper de soi, ça participe au bien-être général de toute la famille, de tout un écosystème.
C'est là où on en vient peut-être à l'association, parce que je crois que c'est le but de l'association que vous vouliez un petit peu présenter aujourd'hui. Est-ce que vous voulez m'en dire un petit peu plus? Je ne sais pas, l'une ou l'autre.
Donc sur l'association Super Maman
oui,
France.
Tout à fait.
Ouais. Alors du coup, moi personnellement, donc c'est une association que j'ai connue grâce à Morgane. Au cours d'une petite balade en forêt qu'on était en train de se faire, elle m'a dit j'ai été contactée pour aller bichonner une maman via l'association Super Maman France. Donc c'est vrai que quand elle m'a dit ça, moi ça m'a tout de suite fait écho et ça m'a tout de suite parlé. Donc je lui ai demandé de m'en dire un peu plus en fait. Et le soir même, je crois que j'étais dans mon bain en train de m'inscrire. Je devais avoir un petit temps de pause devant moi, donc je me suis inscrite à l'association pour en savoir plus et puis pour pouvoir participer moi aussi à ce bichonnage des mamans. Donc quand je me suis inscrite, j'ai tout de suite compris en fait les grandes lignes de l'association. Donc en fait, je devais te faire un petit débrief. Alors j'ai quelques petites dates en tête. En fait, c'est une association du coup qui a été créée, qui a vu le jour d'abord en 2015 en Suisse, et elle est tranquillement arrivée en France. Après, il y a eu la crise Covid là, en 2000.
Ça fait partie du passé.
C'est ça. Il y a eu cette fameuse crise Covid en 2019. Donc là, l'association, elle a eu un peu plus de difficultés. Enfin, ça a mis un peu de temps avant de se lancer. Et en fait, en 2020, ils ont développé une équipe pour diffuser l'information sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'association a commencé à prendre de l'ampleur et à couvrir l'ensemble des départements de la France. Et la présidente me disait au téléphone aussi récemment qu'elle commence à s'implanter dans d'autres pays en Europe, mais hors Union européenne aussi. Donc c'est une association qui prend de l'ampleur tranquillement, mais parce que je pense aussi que le besoin, il est vraiment là. Et comme tu as pu le dire tout à l'heure, je pense qu'on est vraiment sur une problématique sociétale, un peu de toutes ces injonctions qu'on s'impose en tant que parents et qu'on peut imposer aussi aux parents. Donc du coup, ouais, pour moi, cette association, bah, il est temps qu'elle arrive, en fait, et, voilà, qu'elle grandisse, notamment en Mayenne aussi, puisque je trouve, moi, de mon point de vue personnel, qu'il manque encore des points ressources, en fait, pour les mamans, surtout pour les mamans qui viennent d'accoucher. On a beaucoup de points ressources pour les enfants à partir de 2-3 ans, quand ils commencent à grandir. Mais c'est vrai que pour les nouveau-nés, on propose peu de choses. Donc là, je pense que c'est vraiment le moment aussi de se recentrer sur les mamans. Okay. Donc, je pense qu'en Mayenne, oui, cette association-là, elle a toute sa place et elle va vraiment répondre à un besoin. Donc l'idée, c'est de venir offrir un réseau de soutien, en fait, aux jeunes mères, puisqu'on va avoir les mamans habichonnées. Donc ce sont les mamans qui soit sont enceintes, qui attendent leur bébé, soit les jeunes mamans qui viennent d'accoucher. Les six premiers mois après la naissance. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver des mamans bénévoles, donc des personnes qui ont déjà des enfants un peu plus grands.
Qui retrouvent un petit peu de temps libre.
Après, ça peut être n'importe qui, finalement.
Une grand-mère, c'est une maman.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça peut...
Et il y a même l'appellation un peu élargie de parents cadeaux. Donc les mamans cadeaux, les parents cadeaux et les papas cadeaux. Okay. Et je pense qu'on pourrait vraiment accoler n'importe quel mot avant cadeau. Voilà, du moment, je pense que la cause nous touche et qu'on a envie de rendre service et de passer un petit peu de temps à soutenir une famille, c'est tout bon. Et du coup, l'association, en gros, elle met en relation ces mamans cadeaux, parents cadeaux, avec les mamans habichonnées. Nous, notre travail en tant que maman contact, donc nous, on est les deux mamans contact de la Mayenne, c'est nous qui avons en charge l'association et son bon fonctionnement sur ce département-là. Notre rôle, c'est de recruter et de mettre en lien les mamans cadeaux, les papas cadeaux, les parents cadeaux, avec les familles qui en ont fait la demande. Okay. Et voilà, et on fait office d'organisatrice, de mise en lien entre la bénévole et la famille qui vient d'accueillir ou qui va accueillir un nouveau-né et qui souhaite avoir du soutien.
Et donc ce soutien, il va prendre la forme d'une visite, en fait. La maman, elle va pouvoir recevoir la visite pendant 5 semaines de suite. D'une autre maman ou d'une autre personne, comme tu pouvais le dire, avec la visite, avec un repas, en fait. L'idée, c'est que la personne apporte un repas sain de préférence, puisque le corps de la maman a été mis à rude épreuve, donc l'idée, c'est qu'elle puisse se ressourcer, se régénérer. Donc un repas sain, mais ça peut être aussi un petit goûter. Enfin,
oui,
voilà, on demande pas non plus de faire rentrer plat dessert et que ce soit gastronomique.
Oui.
Mais voilà, le fait de venir avec ce petit quelque chose, cette petite collation ou ce repas, bah, c'est déjà beaucoup, en fait, je pense, pour la maman qui va pouvoir en bénéficier. Et c'est, pour moi, c'est un vrai cadeau.
Oui,
et
mieux qu'une peluche, des fois.
C'est ça, voilà, c'est ça. Et après, la maman, elle peut proposer un petit temps d'échange.
Oui.
Voilà.
Comment elle se sent, si elle a envie de discuter. Et du coup, sur donc tu disais c'est sur cinq passages, c'est toujours la même personne ou ça peut être des personnes différentes
Ça peut être des personnes différentes. Actuellement, en Mayenne, on a 10 bénévoles,
D'accord.
10 mamans bénévoles, et réparties un peu dans toute la Mayenne. Et du coup, quand une maman s'inscrit, fait une demande de bichonnage, ce qu'on fait, c'est qu'on signale sa demande aux mamans cadeaux qui sont bénévoles. Et chacune va pouvoir se positionner en disant, ben voilà, moi je peux y aller telle date, moi voilà. Et l'idée, c'est pas qu'une bénévole prenne en charge forcément les 5 passages sur 5 semaines, mais que ça soit digeste, light, fluide pour tout le monde. Et du coup, la maman peut recevoir la visite d'une personne, comme 2, comme 3, et comme 4, comme 5. Voilà, je pense pas que ça sera forcément comme ça que ça va se passer, mais en tout cas, l'idée, c'est d'apporter quelque chose à manger. Et enfin, je pense que toutes les mamans qui nous écoutent, et même les papas qui nous écoutent, sauront à quel point, oui, un repas, ça change tout. Parce que bah, quand on vient d'être jeune parent, c'est souvent le cadet de nos soucis. Et pourtant, nourrir, bah, on doit toujours le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Et qu'on se retrouve à manger n'importe quoi ou à mal manger, alors que c'est, la nourriture, c'est une des ressources numéro un pour régénérer un corps qui vient d'accoucher et puis pour être en forme, un minima pour faire des nuits hachées, etc. Donc c'est vraiment apporter un besoin de base, en fait, aux mamans, mais même aux parents. On dit maman habichonnée parce que c'est un peu le jargon de l'association, mais comme je disais tout à l'heure, il y a toujours une histoire de rayonnement, en fait. Cette maman qu'on va passer voir dans la journée, qui va être toute seule parce que le conjoint a repris le travail ou etc., elle va avoir la visite de quelqu'un, elle va avoir eu un repas, ou ce soir elle va se dire, c'est cool, je sais ce qu'on mange, voilà. Elle va pouvoir avoir discuté avec quelqu'un qui est là à l'écoute, qui est venu pour elle et qui n'est pas de la famille, qui, ouais, voilà, qui est neutre, en fait. Et elle va peut-être pouvoir exprimer des choses qu'elle n'aurait pas osé dire à sa famille, parce qu'il faut tenir la face ou ce genre de choses. Et ça crée aussi des belles rencontres. Moi, j'ai aussi eu des contacts téléphoniques avec des mamans qui avaient demandé un bichonnage, qui arrivent en Mayenne et qui me disent, ben, moi, je vais être toute seule avec mon bébé, mon petit de 2 ans, et je connaîtrai personne. Donc, ça va me permettre aussi de rencontrer quelques personnes ressources et de commencer à tisser du lien et à me sentir moins seule dans une période où bah, le congé maternité, c'est pas toujours la panacée. On a beau aimer son bébé du fond du cœur, voilà, ben n'empêche que 24 heures seule avec un bébé, c'est pas toujours facile, et qu'on reste, nous, avec nos besoins d'adultes, d'être nourris intellectuellement, d'être nourris socialement. Et bah, l'association Super Maman France, je crois, a compris le truc.
Tout à fait. C'est une très belle démarche, et c'est quelque chose de concret, en plus. Je trouve que, enfin voilà, un repas, effectivement, c'est ça peut refaire une journée.
Puis je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir rayonner aussi après, dans la réaction de l'entourage face à la naissance d'un bébé. Peut-être que tranquillement, ça va amener les gens, enfin les personnes, à réfléchir aussi sur, bah, au lieu de donner des conseils ou d'offrir une peluche, ou de, bah, peut-être juste se dire, bah, de quoi cette maman va vraiment avoir besoin, et comment je vais pouvoir lui être utile, en fait. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un changement de regard aussi qui peut être amené grâce à ce type d'association-là. Oui,
tout à fait. C'est vrai que si une maman dit, ah, ben, j'ai quelqu'un qui est passé me voir, m'apporter un repas, ça peut effectivement faire ressortir...
éveiller la curiosité.
Tout à fait. Et puis, vous me parliez tout à l'heure peut-être d'un événement que vous projetiez d'organiser. Je ne sais pas si quelque chose de... aujourd'hui.
Si, ça peut être une bonne occasion, merci de nous la donner. Du coup, nous, on vient de reprendre l'association, en fait, et pour l'instant, on a plutôt affaire à des tableaux Excel et des numéros de téléphone. C'est pas vraiment le cœur de ce qu'on aime dans cette association. Du coup, on projette après l'été, là, au moment où on enregistre ce podcast, on est avant l'été, au mois de septembre, d'organiser un pique-nique goûter à la ferme, à la Cassine, chez Alexia. Donc ça sera le samedi 23 septembre à partir de 15h. Et je pense qu'on pourra laisser nos coordonnées quelque part sur le podcast pour avoir plus d'infos à ce sujet. Mais voilà, l'idée, ça serait de se rencontrer et de mettre des visages sur ces belles âmes qui veulent toutes œuvrer pour que le postpartum des parents soit plus doux. Et aussi, faire connaître l'association, c'est une super occasion aussi de venir simplement la découvrir, venir poser vos questions sur comment je peux aider, qu'est-ce que ça implique, est-ce que je peux en parler à ma nièce qui va accoucher, l'idée c'est de se rencontrer et de partager un bon moment entre parents et autres.
Très bien. Donc aujourd'hui, qu'on souhaite être maman ambitionnée ou maman-parent cadeau, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on vous contacte personnellement? Est-ce qu'on contacte l'association?
Alors, il y a un site de l'association, Super Maman France. Tout est sur le site pour s'inscrire. Il y a vraiment des formulaires bien faits, tout ça, pour s'inscrire comme maman habichonnée parce qu'on va accoucher. Et je recommande même de ne pas attendre d'avoir accouché si vous entendez ce podcast et que vous vous dites « Ah, mais pour moi, c'est dans longtemps ». Non, inscrivez-vous. Ça nous permet vraiment d'anticiper les choses. Et puis, en fait, quand on vient d'accoucher, franchement, on a mis le truc à penser et on peut même oublier qu'on avait pensé que l'association, ça aurait été bien, mais voilà. Donc, de toute façon, le maître mot quand on devient parent, c'est anticiper.
Maximum des choses avant.
Voilà. Mais donc, même enceinte, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, nous, on revient vers vous au moment où votre bébé est à peu près né, normalement. Et voilà, et quand on veut devenir maman cadeau ou papa cadeau, c'est pareil, c'est sur le site, on s'inscrit et tout est super bien fait. Et nous, après, on revient vers vous, on reprend contact avec vous. Et ensuite, on vous met en relation entre les mamans cadeaux, les mamans habichonnées. Et c'est juste une question d'organisation. Après, mais chacun y va quand il peut, comme il veut, à son rythme. C'est. Voilà. Pour du mieux.
C'est parfait. Est-ce qu'au niveau de l'association, il y avait d'autres choses que vous vouliez parler aujourd'hui ou le tour?
Alors, c'est une association, je ne sais pas si ça peut être intéressant ou pas, mais c'est une association qui est en train de monter un dossier pour être reconnue prochainement association d'utilité publique.
D'accord.
Donc, comme d'autres associations peuvent exister. Donc ça veut dire que ça prend de l'ampleur tranquillement, mais que plus on va être d'adhérents et de bénévoles à participer, plus cette association-là, elle aura de chances de se faire connaître et
oui,
d'avoir vraiment...
Oui, d'avoir un impact aussi.
Voilà, c'est ça.
Complètement. Très bien. Et puis, il y a un truc un peu magique là que je commence à voir en appelant les mamans cadeaux et les mamans bichonnées, c'est que les mamans qui ont été bichonnées, donc dont on a pris soin, très souvent deviennent maman cadeau à leur tour quand elles retrouvent un peu de temps. Je vais parler de mon expérience, mais je pense que si je fais ce métier, si ce genre de cause me tient à cœur, c'est parce que j'ai pas reçu ce genre de choses. Et que je me dis, ces mamans, une fois qu'elles ont reçu ça, elles sont vraiment conscientes de l'impact que ça a eu. Ça paraît des toutes petites choses, mais qui font une énorme différence. Et du coup, la synergie est aussi belle, même s'il n'y a aucune obligation et aucune demande de la part de l'asso. Mais c'est rigolo de voir ce turnover se faire tout doucement. J'ai reçu, maintenant mon enfant est plus grand, donc je veux donner.
C'est ça. Après, dans cette période, on peut aussi apporter aux autres mamans. C'est chouette en tout cas.
Oui, et j'ai vraiment envie de dire, n'hésitez pas si vous êtes juste une personne âgée, un papa. Il y a vraiment qui veut, peut. Il n'y a pas besoin d'être cuisinier hors pair. Il y a vraiment finalement peu de choses à faire. C'est du temps. Mais écouter une maman sur son vécu de jeune maman, il n'y a pas besoin d'être expert, de savoir pour elle. Au contraire, on a bien dit que les conseils non sollicités, ce n'était pas ce dont on avait besoin. C'est juste une écoute, en fait, une présence et un petit soutien d'apporter un thé et les biscuits pour le goûter ou le plat, le couscous que vous avez fait pour vous, d'en prélever deux parts et de se dire je vais juste les donner à cette maman et elle, ça va lui changer sa vie. Donc n'hésitez pas à lever, c'est un peu ces codes que l'association a imposé, maman ambitionnée, maman cadeau. Pour moi, c'est une histoire de société. C'est si tout le monde a ce regard-là sur la maternité, je pense qu'on peut
faire bouger les choses.
ça peut changer beaucoup de choses dans la vie des parents et donc des enfants et donc des futurs petits citoyens.
Je dirais que la seule condition, c'est naturel, mais ça va être de la bienveillance en fait et du non-jugement. On va vraiment aller là-dessus et je pense que ça, c'est donné à beaucoup de personnes. Donc c'est une très petite condition pour beaucoup de choses.
On arrive bientôt à la fin de l'épisode. C'est une petite question de fin d'épisode. Alors maintenant, il n'y a plus de secret parce que les premières personnes que j'ai interviewées, du coup, elles ne savaient pas du tout les questions que je pose. Maintenant, il n'y a plus trop de secrets. Donc, je vais poser à chacune de vous, si ça ne vous embête pas, les deux questions. Donc, la première question, c'est quel est le lieu que vous appréciez en Mayenne, un endroit coup de cœur dont vous voudriez parler aujourd'hui?
Alors moi je suis embêtée avec cette question parce que le premier truc qui vient à chaque fois c'est un lieu qui a fermé.
Ah,
donc je sais pas quelle dédicace faire, je sais que ça serait toujours un compliment bon à prendre, mais peut-être que ça, je vais le dire quand même comme ça, peut-être que ça, voilà, s'ils ont un autre projet en cours, peut-être que ça les poussera à y aller, mais moi mon QG préféré pour aller déjeuner c'était mon dressing dans la cuisine.
Oui.
De Gloria et je sais plus le nom de son conjoint, mais il se reconnaîtra bien évidemment. Et moi j'adorais le concept, la cuisine était délicieuse, je sais qu'elle l'est toujours parce que je sais bien qu'il ne s'est pas arrêté de cuisiner, mais nous n'en profitons plus. et voilà, j'adorais l'idée de la boutique de vêtements et de pouvoir manger un salon, voilà. Et je trouve que c'était aussi une belle image d'un couple et de comment on peut se complémenter en étant complètement différent. Et voilà, donc j'adorais cet endroit. Donc si vous nous entendez, vous pouvez réouvrir un endroit ou je sais pas quel est votre prochain concept, vos prochains projets de vie. Je sais que c'est notamment la naissance d'un enfant qui a fait que voilà, ce projet-là, il était plus forcément très viable. Donc bien sûr, j'accueille complètement, mais voilà, c'était vraiment le lieu et qui me manque, parce que maintenant quand je vais déjeuner dans la Valle, je me dis ah oui, bah non c'est fermé, et je me le dis encore alors que ça fait un bon moment,
ouais,
que c'est fermé.
Ça redonnera peut-être des idées. Très bien. Et toi Alexia, je ne sais pas s'il y a un lieu que tu apprécies en Mayenne ou...
Mais il y en a plusieurs. Alors un lieu, moi c'est peut-être une petite boutique que j'aime beaucoup, la petite boutique Périne et Antoinette, à rue de la Paix à Laval. Quand j'ai du temps, de temps en temps, voilà, à faire une petite virée shopping ou du lèche-vitrine chez Périne et Antoinette, moi c'est mon petit moment qui me fait du bien. Donc voilà. Après sinon j'aime beaucoup les pas japonais. C'est un endroit, un espace en fait où on peut y marcher et se poser. Voilà. C'est des pierres qui sont disposées sur la rivière et c'est vraiment, le point de vue il est magnifique et on a l'impression d'être un peu hors du temps.
Et ça se situe où ?
Alors il y en a plusieurs des pas japonais en Mayenne, mais j'en ai juste à côté de chez moi en fait. Je peux y aller directement à pied, donc souvent je vais en portage avec ma fille et ça se situe en bas de l'Orbière en fait,
okay.
Du côté de Forcé.
Ok,
voilà.
Très bien. Parfait. Et du coup, la deuxième question, c'est quelle est la personne que vous souhaiteriez entendre au micro d'Alain Mayenne?
Alors moi, j'ai pensé à une amie à moi, donc Aurélie Volgrotte, qui est dans le fin fond de la Mayenne pour moi. Elle est tapissière d'ameublement. Elle s'occupe de redonner une nouvelle vie à de magnifiques fauteuils ou à de magnifiques meubles. Et je trouve que son métier, il est vraiment très peu connu déjà, mais il est surtout très beau. Et voilà, c'est une femme qui est maman aussi de 3 enfants et que je trouve très courageuse de réussir à manier sa vie d'entrepreneur et puis sa vie de maman à côté.
D'accord, très bien. Et toi, Morgane, est-ce que tu as pensé à quelqu'un en particulier ?
Ah oui, moi j'ai une liste de 35 personnes, des femmes en Mayenne dont j'ai envie qu'on parle. Bah oui, il y en a tellement. En fait, je t'avoue que j'étais plutôt stressée par le fait de passer sur le podcast. mais que cette question-là, elle m'a empêchée de dormir.
Vrai.
Je me suis dit, ah, elle,
je veux pas
et puis elle, et puis elle. Ah oui, mais il y aurait elle aussi. Je me suis dit, non, il faut que t'en dises qu'une. Ok.
On va pas faire de jalousie dans ces questions-là, je le comprends.
Mais je...
Mais
en
après,
fait,
si tu peux parler d'une personne, oui. Et puis après, je peux relayer d'autres...
Je vais dire, enfin, je vais faire ce que je dis souvent à mes clientes, c'est écouter votre première intuition. Donc, je vais faire ça.
Très bien.
Et puis je trouve que c'est cohérent avec tout le sujet du podcast, donc en plus, cerise sur le gâteau, allez, on y va. Donc la première personne à qui j'ai pensé, c'est Amy, qui est doula en Mayenne, du compte Instagram Terre d'émotion. Et je trouve que c'est une personne qui, elle aussi, à sa façon, contribue à ce que la grossesse, l'arrivée d'un bébé et puis... tout le début de la vie avec un bébé se fasse de façon consciente, douce, voilà. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs que je partage beaucoup. Et je sais que si tu lui laissais la parole sur ce podcast, il y aurait plein de belles choses intéressantes, impactantes qui sortiraient de sa bouche. Okay. Donc voilà, je suis ma première intuition. C'est elle.
Très bien. Les invitations sont lancées en tout cas. Eh ben, merci beaucoup à vous deux pour ce temps d'échange et cette discussion qui est encore très enrichissante. Et puis, bien évidemment, je mettrai tous les liens de l'association et puis de vos activités respectives sur les réseaux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup.
Merci à toi, Amélie.
Et puis, à bientôt. Merci.
À bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Elle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci.